Chapitre 3. 3 août 1914. Le galop des événements retentit de tous côtés. Le jour même où j'écrivais mes dernières notes, l'Autriche déclarait la guerre à la Serbie et j'espérais encore. La mobilisation générale est affichée partout, mais un mot précédent du président, en rappelant que la mobilisation n'est pas nécessairement la guerre, laisse un semblant d'espoir auquel se rattache le cœur tremblant de ma mère. Monsieur de Cerdeau a pris mardi dernier congé de sa fiancée, dont la contenance était ferme. Moi, j'ai relevé un peu vertement Rémy. Si c'est la guerre, et nous n'en pouvons plus douter, qu'arrivera-t-il ? Disait-il. Je crois les Allemands très supérieurs à nous. Ce n'est pas le moment de parler d'une supériorité chez nos ennemis, mais d'avoir foi dans notre race, répliquai-je avec une vivacité qui surprit tout le monde. S'ils se présentent, je ne demande qu'à les battre, mademoiselle, croyez-le bien. Alors ayons foi en nous ou nous sommes perdus. Soit, ayons la foi, dit-il avec une politesse ironique qu'en ce moment je détestais. Olga, le soir, m'a reproché ma vivacité et sans doute elle a raison. Ce ton n'était pas de toi, Marguerite, mais je crois que tu n'aimes pas beaucoup mon fiancé. Tu l'attaques dans un pareil moment? Il part. Et quand le reverrai-je? J'apprécie Monsieur de Cerdeau, mais une tendance qui me déplaît chez lui comme chez tant d'autres est celle d'admirer les qualités des étrangers au détriment des qualités françaises. Vieille habitude qui, autrefois, était le désir courtois d'être aimable avec des hôtes de passage. De nos jours, elle s'est transformée en grave défaut qui nous a fait beaucoup de mal chez les nations étrangères. Elles prennent au sérieux ce dénigrement de nous-mêmes. Mon père est parti pour Meaux, où il se croit plus près des événements. 4 août 1914. Le tocsin a chassé ce matin nos dernières illusions. Nous nous sommes précipités pour descendre rapidement au bourg. Sur la route, nous avons rencontré le garde champêtre, arrêté dans un groupe de paysans. C'est bien la guerre ? Oui, madame. L'Allemagne, dit la dépêche, l'a déclarée hier soir à 18h15. Ah, si on pouvait couper Guillaume en petits morceaux, le brûler à petit feu! Il n'aurait que ce qu'il mérite, bien sûr, s'écrièrent les paysans. Nous ne répondîmes rien à cette expression du sentiment populaire et nous remontâmes silencieusement le coteau. Quel soleil déjà éclatant! Quelle ombre bienfaisante sous les arbres qui nous protégeaient! On entendit la voix du ruisseau qui descend sous les ronces. Aucune mélodie de la nature ne s'interrompt parce que les hommes sont méchants et j'en éprouvais une douleur aiguë. Le riant visage d'Olga était devenu grave. Une révolution subite bouleversait nos sentiments pour leur donner une fermeté qui m'étonnait moi-même. Avant de rentrer, ma mère regarda devant elle le paysage familier, intimement associé à sa vie. À gauche, le bourg, l'église où ses enfants avaient été baptisés, où elle avait puisé la sève chrétienne qui, à des degrés différents, nourrissait leurs pensées et leurs énergies. À droite, le coteau boisé qui fait un demi-cercle jusqu'à la pointe du Corré. Devant nous, à 200 toises, le village et l'usine dont l'activité allait momentanément disparaître. « Du moins, dit ma mère à mi-voix, ils ne viendront jamais jusqu'ici. » Elle se tourna vers nous et nous dit d'un ton résolu « Et maintenant, mes enfants, nous ne sommes plus que des Françaises. Oh oui, tous les projets personnels s'engloutissent dans les grands intérêts du pays, s'écria Olga. La réponse, en contradiction apparente avec la nature de ma sœur, me ravit. Cette guerre est un coup de foudre, elle nous surprend en plein bonheur et, sans effort, nous entrions dans les nécessités morales des circonstances. « C'est bien, reprit ma mère. Quand votre père rentrera, il nous trouvera calme. Si Christian vient nous dire adieu, nous saurons l'encourager, encore qu'il n'en ait pas besoin. » Olga me regarda à la dérobée, car en parlant de son fils, ma pauvre mère était trahie par sa voix. J'espérais que mon père arriverait à Fleurs pour le déjeuner, mais nous l'attendîmes anxieusement toute la journée. Il rentra à 5h. « Le fait est donc accompli, nous dit-il. Je connais les termes de la déclaration de guerre. Il suffirait à faire prendre en horreur cette insolente Allemagne. Elle n'a même pas cherché un prétexte sérieux. Un niais mensonge lui suffit pour motiver, vis-à-vis de la France, le déchaînement d'une guerre qui sera atroce. » Il prit la main de ma mère et la regarda en souriant. Quel souffle passa sur elle et sur moi pour nous apprendre une décision à laquelle nous n'avions même pas pensé. Sans doute la sympathie qui nous unit à ce cœur généreux. « Chère Emma, je pars. Je me suis engagée. » « Je le comprends, » répondit simplement ma mère en l'embrassant. Nous entourâmes mon cher père en le félicitant. « Ah, qu'il a bien fait et que je voudrais être un homme !»« Chers aimés, » dit-il avec émotion, « je n'attendais pas moins de vous. C'est le moment de remplir tout son devoir. » »« Plus que son devoir, Étienne. À 54 ans, il serait naturel de ne pas partir. » « Naturel, non, quand on a bon pied, bon œil, bonne dent, » dit-il gaiement. Le soir, je lui exprimai le désir d'entrer dans un service de la Croix-Rouge, mais il me pria d'attendre. « Je compte sur toi, Marguerite, pour t'occuper des affaires. Tu as remarqué, je crois, mes conférences avec Muret ?» Elle m'inquiétait beaucoup. Je l'ai considérée comme l'indice d'une opinion arrêtée sur l'issue malheureuse des pourparlers. Mais je ne soupçonnais pas votre dessein caché de partir. Je ne voulais assombrir personne avant le moment venu. Le sous-directeur part immédiatement, la plupart des ouvriers sont mobilisés, et dans 5 jours, il n'en restera plus qu'une 50aine. Muret verra le travail qu'il peut faire avec 50 hommes. Tu me remplaceras dans les écritures et sans détails que tu connais déjà. Toi et ta mère, vous veillerez, vous prendrez les dispositions que les circonstances exigeront. Reste ici, je t'en prie. Continuez, pendant que nous nous battons, à remplir le devoir courant. Ce sont de sages paroles, dis-je, et nous attendrons à fleur les événements. Et si vous pouvez maintenir un semblant de travail dans l'usine, j'en serai bien heureux. Plus tard, si je suis obligé de fermer entièrement, tu reprendras ton projet. Plus tard, vous croyez donc à une guerre très longue ? Oui, dit-il en se levant. Et nous rejoignîmes ma mère dans le salon. Avec un grand calme, nous avons discuté, combiné nos arrangements. Nous sentions mon père tranquillisé par notre attitude, qui n'avait rien de forcé, rien de factice. Ma mère, Olga elle-même, était à la hauteur d'une situation si imprévue. Elle me donnait un exemple que je suivais sans peine. Quand le terrain est préparé par des habitudes de pensée, par des actes également, car notre existence agréable était celle de tant de familles françaises où le travail et le sérieux dominent, la conduite est la conséquence naturelle de l'état d'esprit. Cette vérité élémentaire sera forcément reconnue par les nations étrangères qui nous connaissent si mal et nous critiquent si aisément. À 11 heures, nous entendîmes le bruit d'une automobile. « C'est Christian, j'en suis sûr !» s'écria ma mère. Il était dans ses bras avant que nous eussions fait un mouvement. « 2 heures seulement à vous donner et en route contre ces Allemands. » Son air était sérieux, bien que sa bouche souriât. « Comment es-tu venu ?»« J'ai une permission, bien entendu. Jean est encore à Paris et, grâce à son automobile, me voilà. Mais il faut que je sois demain matin à mon poste. » « Même pas un jour à nous donner avant une telle séparation ?»« Impossible, mère. Qu'importe, quand je reviendrai, notre joie sera plus grande. J'ai vu Rémi, Olga. Je crois que nous partirons en même temps pour la frontière. »« Pauvre garçon !»« Pauvre garçon ! Pourquoi, pauvre garçon ?» demanda Christian d'un ton vif. « Il a le sort de tous et n'en voudrait pas d'autre. Du moins, je l'espère pour lui. »« Évidemment, Christian !» dit Olga, les larmes aux yeux. « Allons, dit mon père, une fiancée a le droit de ne point sentir comme nous-mêmes. » « C'est juste, Rémi t'envoie 1000 tendresses, Olga, bien entendu. » « Quelques jours plus tard, dit ma mère avec calme, et tu partais probablement avec ton père. » « Comment ? Crois-tu que je resterai les bras croisés en cette formidable occurrence ?» Christian nous a regardés un moment en silence. Ses lèvres tremblaient un peu. « Je vois, dit-il avec émotion, que les femmes se font une âme de soldat. Bravo et vive la France ! Votre belle santé, mon cher père, ajouta-t-il gaiement, vous permettra d'affronter les fatigues de la campagne. Parbleu, je crois bien. D'ailleurs, je partirai comme officier de réserve. » Et puis, ce ne sera pas long, nous serons promptement victorieux. Nous aurons la victoire, oui, je n'en doute pas, mais la lutte sera longue, en tout cas très rude, car les Allemands sont formidablement armés. Écartons les dangereuses illusions. Eh bien, nous acceptons la lutte, quelque rude qu'elle soit. Pendant qu'ils supputaient nos chances de vaincre, je suis allé chercher une ceinture double dans laquelle, le jour même, j'avais glissé 2 000 francs en or. Nous nous disions que si Christian venait à Fleur, il en porterait. Qu'est-ce que cela, Marguerite ? Une idée d'Olga, Christian, c'est de l'or. Tu mettras sur toi cette ceinture, et si tu étais fait prisonnier ? Même sans cela, dit mon père, il est bon d'avoir une réserve cachée. La mesure est très prudente. Christian passa aussitôt la ceinture sous son uniforme. Merci, dame Cendrillon. Merci, Olga. J'ai vraiment des sœurs charmantes. Puis il s'occupa de ma pauvre mère, qui lui adressait 1 000 recommandations. Il répondait d'un ton sérieux ou riant pour dissimuler son attendrissement. Il réussit à m'attirer un instant à l'écart. À toi, Marguerite, je le dis, j'ai le pressentiment que je ne reviendrai jamais à Fleur. Tais-toi, pas de découragement, pas d'idées noires. Découragement, idées noires, pas le moins du monde. Et crois-tu que je ne serais pas heureux de donner ma vie pour mon pays? Nous partons plein d'ardeur, mais beaucoup ne reviendront pas, tu le sais. Alors tu consolerais nos parents. Ah, si c'était vrai, qui donc pourrait les consoler? Il me regardait en souriant, malgré le sérieux du moment. Allons, Marguerite, qu'est-ce que cette figure? Il faut se mettre en face des réalités possibles. Toi qui as toujours quelque panacée secrète, qui console et fortifie, c'est l'heure de l'appliquer. Tu dis des choses si terribles, Christian. Du tout, je parle en soldat. Jean sera-t-il major dans ton régiment? Non. Je le regrette. Si tu étais blessé, tu aurais un ami pour te soigner. Il s'agit bien de cela, Cendrillon naïve. Adieu. N'oublie pas mes recommandations. Ensuite, tout a été si rapide. Nous n'aurions pas eu le temps de céder à notre émotion si notre courage avait faibli. Groupés sur le perron, nous écoutâmes le plus longtemps possible le roulement de l'automobile. Dans le calme profond de la nuit, le bruit ne s'éteignit que peu à peu et vint le silence que nul de nous ne voulut rompre. Je rentrai chez moi avec la sensation précise qu'une nouvelle époque commençait, que le passé de notre vie n'était plus rien. Il est 3 heures. La nuit est belle, chaude. Bientôt l'aube paraîtra. Tout est pur, tranquille. Les mères pleurent et des milliers d'hommes vont se tuer. Pourquoi ?